parce que Radio Capune et le Congo, que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Le cancer du sein et du col de l'utérus demeure un problème de santé publique en RDC. Cette maladie tue en silence plusieurs femmes et jeunes filles. Souvent, les patients se présentent dans les hôpitaux à un stade avancé de la maladie. Or, les décès liés au cancer du sein et du col de l'utérus peuvent être évités grâce à un meilleur dépistage, grâce à un dépistage qui est fait à temps. Alors, pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Dr Claude Nsa, présidente de l'ONG Nouvel Espoir contre le cancer, et elle est avec Monsieur Célestin Kachunga, coordonnateur de l'ONG ASICAS. Alors, docteur Claude, disons que tout le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein et du col de l'utérus.
Oui, monsieur le journaliste. Le mois du cancer d'octobre, on appelle ça Octobre Rose. C'est une initiative de femmes de la France qui ont commencé cela. Et nous ne faisons qu'emboîter les pas parce que nous avons vu les résultats que ça donnait dans ces pays-là. Mmh. Alors, nous aussi, nous comptons nous manifester aussi pendant le mois d'octobre de la même façon pour faire la sensibilisation et conscientiser la femme sur l'existence du cancer du sein.
Aujourd'hui, quelle est la situation ou les statistiques par rapport au cancer du sein et du col de l'utérus dans notre pays?
Aujourd'hui, particulièrement sur le cancer du sein, je pense que sur 10 femmes à Kinshasa particulièrement et au Congo en général, je pense sur 10 femmes, 4 femmes sont affectées par le cancer du sein. Donc c'est déjà un problème de santé publique et nous pensons que tous les ONG qui s'occupent de la santé de la femme et le gouvernement doivent se mettre ensemble pour aider la femme à éviter cette maladie ou encore à soigner cette maladie parce que c'est l'un des cancers qu'on peut facilement soigner, mais il faut une bonne sensibilisation pour arriver à une détection précoce.
Alors docteur, quelles sont les causes du cancer du sein par exemple?
Le cancer du sein en soi, comme tout cancer, les causes ne sont pas encore connues. Nous avons des facteurs que nous appelons des facteurs favorisants. Et ces facteurs particulièrement sont liés à une augmentation du taux d'œstrogène dans l'organisme de la femme. Et ces facteurs, en soi, nous disons, par exemple, nous parlons de cancer, de facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, ce sont, par exemple, nous vivons tous les jours avec la fumée des véhicules. Dans la fumée des véhicules, nous avons des déchets, des huiles de moteur et des carburants. Mmh. Et ce sont des produits qu'on a retrouvés dans les canaux mammaires de la femme. Et ces produits-là entraînent une augmentation du taux de l'œstrogène chez la femme. Et nous disons que c'est un facteur qui favorise vraiment sérieusement le développement du cancer du sein chez la femme. Ça, c'est un facteur très important.
Et l'œstrogène, c'est une hormone qui s'occupe de quoi ?
L'œstrogène, c'est une hormone qui est dans la régulation, par exemple, du cycle menstruel de la femme, par exemple, dans le cycle de ça intervient pour la santé de la reproduction de la femme. Donc, à un moment de la vie, la femme a un taux plus élevé, à un moment, il y a une diminution de ce taux-là. Donc, il y a une régulation dans l'organisme de la femme. Mais il se fait qu'il y a certaines femmes qui en présentent beaucoup plus. Et cette élévation de ce taux-là entraîne souvent des troubles hormonaux. Dans ces troubles-là, nous avons aussi l'exposition de la femme à développer les cancers du sein. Alors, ces facteurs que nous appelons facteurs environnementaux exposent la femme à développer les cancers du sein. À part ça, il y a aussi les pesticides que les mamans maraîchères utilisent. Ils n'ont aucune politique pour l'utilisation de ces pesticides-là. La femme elle-même qui est maraîchère, elle est en danger et la personne qui ingère les légumes en question est aussi en danger. Il y a un autre facteur qui est le facteur le plus important encore, c'est le facteur génétique. En tout cas, plus de 20% des femmes qui ont développé les cancers du sein ont dans leur famille, dans leurs antécédents, des membres de famille qui ont aussi développé les cancers du sein. Et il est déjà prouvé scientifiquement que dans l'organisme de la femme, il y a un gène. La femme naît avec un gène qui l'expose déjà à développer le cancer du sein. Donc, c'est un facteur très important. C'est pourquoi nous disons les femmes qui développent les cancers du sein doivent en parler à leurs enfants. Et je peux même parler du phénomène qui se passe dans le monde maintenant dans les pays développés. On appelle ça phénomène Angelina Jolie. C'est une femme dont la maman est morte de cancer du sein. Elle est partie, elle s'est retrouvée avec le gène du cancer du sein. Mm-hmm. Et elle a préféré faire ce que nous appelons mammectomie préventive. Cette femme est partie voir son médecin et on a fait l'ablation de tous les deux seins pour prévenir à ce qu'ils ne puissent pas avoir le cancer. Et cette information a aidé beaucoup de femmes occidentales à aller se faire examiner et ça a augmenté même le nombre de dépistages volontaires du cancer du sein dans les pays occidentaux.
Mmh. Voilà. Mais on dit souvent que le cancer est une maladie qui tue en silence, qui tue les femmes en silence, surtout dans notre pays.
Bien sûr, parce que le cancer du sein, c'est comme nous disons, il y a moyen d'éviter les cancers du sein par la prévention qui est constituée par l'autopalpation. Pourquoi nous disons cela? Nous disons cela parce que la femme ne sait pas qu'il a un problème dans son sein. Ici à Kinshasa, par exemple, plus de 90% même des femmes qui développent les cancers du sein commencent par la présence d'une boule. Il y a des femmes qui connaissent qu'elles ont la boule, il y a des femmes qui ne savent pas. Parmi même celles qui connaissaient qu'elles avaient la boule, elles ne connaissaient même pas ce que la boule là voulait dire. Mmh. Alors la boule là, ça commençait plus petit qu'un grain de sable.
Au niveau du sein.
Au niveau du sein. Mmh. Et ça évoluait progressivement. Ça pouvait être d'emblée une boule qui était un cancer, ou bien c'était une boule qui n'était pas un cancer, mais c'est devenu un cancer par après, et la femme ne savait pas. Alors ça peut lui prendre plusieurs années, même une dizaine d'années, en train d'évoluer avec cette boule là, soit ignorant la boule, soit connaissant qu'elle a la boule mais sans savoir de quoi il s'agit, et ça va la tuer petit à petit jusqu'au jour où elle se rendra compte de la déformation de la peau ou bien de l'architecture de son sein. À ce moment-là, la femme vient poser le problème. Là, vous reconnaîtrez maintenant qu'il y a un cancer, alors que le cancer a évolué depuis plusieurs années.
Voilà, Célestin Kachunga, vous êtes coordonnateur de l'ONG ACICAS, Association internationale de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Vous êtes souvent en contact avec les malades depuis plusieurs années. On a l'impression que les malades viennent souvent à un stade avancé de la maladie. Et qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire, c'est la mort qui va s'en suivre.
Oui, tout à fait. Merci d'abord pour l'opportunité. Je vais dire une chose parce que, comme vient de dire mon prédécesseur, en fait, les malades ne sont pas informés à ce qui concerne la prévention ou l'importance du dépistage précoce. Je vais ajouter une chose, à ce qui concerne le cancer du sein, c'est une maladie qui est curable si il est détecté à temps. Et faute d'information, par manque d'information, voilà pourquoi les malades se présentent toujours en retard. Et le mois d'octobre, c'était le mois mondial de sensibilisation au cancer du sein. Et voilà pourquoi nous, les ONG, nous sommes mis ensemble pour un peu sortir la population dans l'ignorance qui les éloigne des dépistages précoces.
Et vous recevez beaucoup de malades depuis toutes ces années. Et comment vous faites vous parlez avec eux pour la sensibilisation, par exemple pour la prise en charge aussi, comment ça se passe au niveau de l'ACICAS?
Oui, en fait, pour la sensibilisation, je peux dire qu'on a déjà fait ce qu'on pouvait faire, mais il se pose un grand problème là où nous sommes en train d'interpeller le gouvernement. Et à ce qui concerne la prise en charge, parce que comme vous le savez, la prise en charge liée aux malades de cancer n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et nous avons déjà sensibilisé la population, on ne dit pas que nous c'est assez, mais il se pose un grand problème que le gouvernement, nous sommes en train je profite de l'occasion pour interpeller le gouvernement, et à l'heure où je vous parle, ACICAS à elle seule a une affaire de 122 malades de cancer, malheureusement c'est au stade avancé de la maladie. Il y a avant-hier on a perdu deux parmi eux, d'un cancer du sein, toujours au stade avancé de la maladie.
Voilà, docteur Sarr, vous avez parlé des causes du cancer du sein. Alors, quelles sont les manifestations du cancer? Comment savoir que c'est un cancer ou c'est pas ça?
Oui, mais avant de présenter les signes, là, je voulais d'abord dire une chose. Mmh. Il faut pas que la femme s'imagine, dès qu'il a tous les signes que je vais citer, là, d'emblée, c'est un cancer. Mmh. Nous appelons ça des signes d'alarme. C'est-à-dire, ça peut ne pas être un cancer, ça peut être une maladie autre que le cancer, mais il est conseillé d'aller voir le médecin parce que il y a des examens, des investigations qu'on va faire qui va confirmer la présence ou non d'un cancer. Mmh. Il s'agit, par exemple, du changement de la coloration de la peau du sein. Du coup, la femme se voit un jour et se réveille, voit une tache blanchâtre ou noirâtre ou bleuâtre au niveau de son sein, c'est un signe suspect. Donc, il faut vite voir un médecin. Il peut aussi s'agir de changement du volume du sein. Tu vois le volume de ton sein commencer à prendre plus, à devenir plus important ou à se réduire. ça, il faut vraiment aller vite voir un médecin parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe?
Bien, docteur, avant de poursuivre, on va accueillir une dame, Yasmine, elle nous appelle de Kananga. Yasmine, vous êtes en ligne et nous invitons également les autres auditeurs à participer à cette émission en nous appelant au 081-890-6394. Yasmine, bonjour.
Bonjour, Jody, je suis à Kananga, au quartier occidental.
On vous écoute.
J'avais plusieurs préoccupations à adresser à notre invité, mais heureusement qu'au travers de ses explications, certaines de nos questions ont été, ont trouvé plutôt une résolution. Mais au moins, je voulais avoir quelques petites précisions par rapport à la prise en charge de cette maladie. Dans mon quartier où je vis, on venait de perdre deux femmes, une d'elles vraiment une jeune fille, une petite fille de rien du tout là, qui on prétend qu'il avait le cancer du sein. Et après avoir suivi beaucoup de traitements, vraiment, il est allé même à l'étranger, mais ça n'a pas tenu. Je voulais savoir, est-ce que vraiment cette maladie est curable? On peut vraiment les traiter et que la personne retrouve sa vie? Ou carrément, si on est atteint de cette maladie, qu'on ne sert plus jamais à la vie? Voilà un peu ma petite préoccupation.
Bien, un autre auditeur, Jean de Mbujimaï, bonjour. Et aujourd'hui, on a des petits soucis par rapport à la liaison téléphonique. Il va sûrement nous rappeler. Docteur Sarah, qu'est-ce que vous pouvez dire à Yasmine?
Voilà, la question de Yasmine, si je comprends bien, veut savoir si la maladie est curable. Je pense que nous sommes en train de dire la maladie, le cancer du sein, c'est une maladie curable parce que il y a des malades ici à Kinshasa qui ont été guéris, qui ont gardé leur sein. Il y a d'autres qui ont perdu leur sein. Il y a plusieurs stades de traitement. Donc, la maladie est guérissable. Mais ce que nous devons savoir, c'est au début, il y a une condition. Parce que si la maladie est avancée, il y a des complications. Peut-être qu'on n'a pas encore cité. Il y a des complications au niveau du foie, au niveau de l'estomac, du poumon. Il y a au niveau du bassin. Quand la maladie est très, très avancée, il est difficile de soigner au même moment toutes ces métastases et la maladie d'origine, donc c'est-à-dire le cancer du sein et ses complications. C'est pourquoi nous disons ceci, la maladie, quand ça ne concerne que le sein et ça n'a pas été diffusé ailleurs, elle est facilement guérissable. Donc nous disons ceci, que les femmes fassent un effort quand elle est au début de sa maladie, qu'elle consulte le médecin et qu'elle accepte le schéma thérapeutique que le médecin va présenter. Le grand problème qu'on a à Kinshasa, c'est que au début de la maladie, quand la femme voit que son sein est bon et qu'on lui dit qu'elle a un cancer, on lui propose un traitement. Souvent, la femme refuse le traitement qu'on lui donne, elle accepte ce qu'on lui dit dans la rue. Et quand la femme part, elle revient quand c'est déjà très très avancé. C'est ce qu'on a comme problème, parce que si nous comparons les statistiques de cas de cancer en Europe, nous avons un plus grand nombre, le nombre est plus élevé en Europe que chez nous. Mais vous allez remarquer, c'est chez nous que les femmes en meurent plus, même les femmes qui ont des moyens, parce que quand elles se sentent bien, elles ont ces moyens, elles fuient le médecin. Et quand elles sentent que ça ne va pas, elles comprennent ce que le médecin lui avait dit, c'est à ce moment-là qu'elle revient, et il est difficile maintenant de l'aider. Et souvent, nous perdons des femmes comme ça.
C'est peut-être parce qu'elles ne connaissent pas les signes. Vous étiez en train d'ailleurs de parler des signes tout à l'heure. Changement de coloration du sein, volume, le sein qui prend beaucoup plus de volume ou qui est réduit.
Non, ça peut être réduit comme ça peut
prendre du volume.
Prendre de volume,
voilà.
Oui.
Autre signe.
Autre signe, c'est la plaie. Il y a des femmes qui vont remarquer au niveau de leur sein une plaie qui ne cicatrise pas, par exemple. Ça fait plus de 3 semaines, vous avez une plaie qui ne change pas d'aspect et qui persiste et qui ne cicatrise pas. Ça peut arriver 1 mois, 2 mois. Vous voyez la plaie qui persiste, c'est une plaie suspecte. Il y a aussi des plaies qui cicatrisent. Ça cicatrise aujourd'hui et ça revient après, par exemple, 3 mois au même endroit. Ou bien un bouton que vous cassez, ça revient toujours. Ce sont des signes très suspects. Il faut aller vite voir un médecin. Il y a un signe très important qu'il y a aussi, les femmes doivent savoir, c'est la boule dans le sein. Une femme qui a une boule dans le sein ne doit pas rester silencieuse. Elle doit voir un médecin. Elle doit demander au médecin de lui dire de quoi il s'agit. Elle doit passer par l'échographie pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et si c'est pas un cancer, on l'aidera à extraire la masse sans problème. Mais si on suspecte que c'est un cancer, on va faire la biopsie et aider la femme. Parce que souvent, on peut bien soigner la femme quand la boule là est très mobile et il n'y a pas de complications. D'accord. Nous parlons de la boule. Il y a les écoulements mammaires. Que les femmes pressent leur sein, surtout pendant ce mois d'octobre. Qu'elles essaient de presser leur sein, vous allez remarquer quel est le liquide qui sort de votre mamelon. Ce liquide peut être rougeâtre, ça peut être noirâtre, ça peut être bleuâtre ou verdâtre. Quand vous remarquez des liquides comme ça, c'est très suspect. Il faut voir un médecin, on pourra vous aider.
D'accord, on va accueillir Ismaël Mompoy de Lumbashi. Bonjour. Ismaël, vous êtes à Lumbashi, bonjour. Il n'est plus là. Alors, Célestin Kachunga, vous avez suivi, le docteur a donné les signes. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter par rapport aux signes d'alarme par rapport au cancer du sein?
Oui, merci. Au fait, ce que nous devons dire ici, d'abord, nous devons mettre beaucoup plus d'attention sur les gestes d'autopalpation. C'est ce qui englobe la sensibilisation liée au cancer du sein. Mmh. Et donc, je pense que...
Là, on est déjà dans la prévention.
Hein? Oui, tout à fait.
Dans l'aspect prévention.
Tout à fait. Mmh. Et là, peut-être, je peux ajouter une chose à tout ce que Dr. Klontza vient de dire. Au fait, vous devez savoir que, à ce qui concerne le dépistage des cancers du sein, c'est d'abord à partir de soi-même, avec les gestes simples que Dr. Klontza a dit, les gestes de l'autopalpation. Donc, ça veut dire quoi? À partir de moi-même, je me dépiste. Donc, les gestes d'autopalpation, vous devez savoir qu'il faut pratiquer les gestes d'autopalpation une fois le mois, une semaine après les règles. Mmh. Si vous êtes ménopausé, vous choisissez une date fixe le mois et vous passez ces gestes. Mais il ne faut pas oublier que nous, les hommes, nous sommes aussi concernés des cancers de sein. Mais c'est un faible pourcentage. Par exemple, les statistiques de l'hôpital provincial de Mamayemo, ici à Kinshasa, bien sûr, nous sommes en train de parler de Kinshasa, mais... Kinshasa n'est pas égal à la RDC, nous parlons ici de toute la République, mais on donne faute des stratégies, faute des registres du cancer, voilà pourquoi nous sommes limités, nous ne sommes pas en mesure de donner les statistiques par rapport au cancer dans toute la République. Mais par exemple, l'hôpital provincial de Mamayemo à Kinshasa, on va vous dire que chaque année, on enregistre une affaire de 12 à 15 cas de cancer du sein chez les messieurs, chez nous les hommes. Mmh. Donc pour vous dire que c'est une maladie qui concerne aussi les hommes, mais à faible pourcentage. Maintenant, comment passer les gestes d'autopalpation? Je me répète, c'est chaque mois, semaine après les règles. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, avant de passer les gestes d'autopalpation, il faut réunir les conditions. Les conditions, première condition, si vous êtes marié, il faut informer votre conjoint. Pourquoi? Parce que vous savez, nous sommes des Africains, même pas les Africains. Votre mari est capable de vous suivre jusqu'à dans votre douche. Mais si du moins il vous surprend en train de faire des mouvements, il risque de mal interpréter. Et surtout qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à Kinshasa et tu peux te réveiller le matin, on te dit que tu es sorcier et tout ça. Mais la première condition, il faut informer votre conjoint que vous voulez passer les gestes d'autopalpation si du moins il vous surprend, qu'il ne s'enflamme pas. Et deuxième condition, il faut avoir un miroir chez soi. Et troisième condition, il faut connaître l'état de votre poitrine. Ça veut dire quoi? Connaître quelque chose suspect. Si ça n'a jamais existé, donc vous devez...
Une boule, par exemple, qui apparaît.
Oui, par exemple. Ouais. Et maintenant, vous allez maintenant passer votre geste d'autopalpation et debout devant un miroir, vous inspectez vos seins. Vous regardez quoi? Vous regardez s'il n'y a pas des indérations anormales. Par exemple, déviation du sein ou rétraction du mamelon. Parce qu'à travers le miroir, vous n'allez pas voir la boule. Il faut palper pour sentir la boule. Oui. Mais à travers le miroir, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher des indérations anormales, par exemple des déviations du sein. Mais il ne faut pas oublier que les seins ne sont pas de même grandeur. Il y a toujours un sein plus volumineux que l'autre. Mais quand ça devient encore plus volumineux qu'auparavant, c'est déjà un danger. Mmh. Voilà pourquoi j'ai dit il faut d'abord connaître l'état de sa poitrine. Et deuxième geste, vous soulevez maintenant votre bras, vous commencez à palper les seins en faisant des petits cercles comme les goûts du montre. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Vous êtes en train de chercher la boule qu'ils sont en train de parler ici, un nodule.
D'accord, un instant, le temps, on va accueillir Aimé Minakou depuis Isiro. Aimé, bonjour.
Bonjour, José.
Vous êtes à Isiro, en province orientale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai une question de savoir. Cette maladie est due vraiment à quoi? Parce que souvent, on dit peut-être que si tu restes enfermé pendant longtemps ou bien... l'habillement aussi cause les cancers des seins. C'est pourquoi j'aimerais savoir d'où vient cette maladie. Oui, la deuxième question est de savoir, une fois une personne est atteinte de cette maladie, qu'est-ce qu'il peut éviter? Quelles sont les pratiques ou les aliments qu'il doit éviter? Oui.
D'accord, merci, docteur. Ça.
Oui, merci. La première question, vous voulez savoir qu'est-ce qui cause la maladie. Vous avez pensé peut-être à une malnutrition ou quelque chose comme ça. Non, je ne pense pas. Mais dans l'habillement, il y a aussi un problème parce que nous conseillons aux femmes de ne pas trop presser leur sein. Parce qu'il y a des pathologies qui ne sont pas d'emblée un cancer, mais comme nous parlons de galactosèle par exemple, ce sont des maladies où il n'est pas conseillé à la femme de presser le sein. Mais par après, ces galactosèles peut aussi dégénérer. Donc, il n'est pas bon de trop presser le sein. Dans l'habillement, je vous conseille de ne pas presser le sein.
Il y a des femmes qui ont des fortes poitrines et préfèrent porter des soutiens qui sont un peu trop étroits, qui les serrent.
Oui, il n'y a pas de raison. En tout cas, nous avons bien regardé les seins de la femme.
Oui.
Elles viennent chez nous, nous les conseillons, nous leur disons, nous leur montrons comment porter le soutien. Elles exagèrent elles-mêmes quand elles pressent les seins. Mais il n'est pas conseillé de trop presser les seins. Porter, c'est un organe. Elle n'a pas besoin d'être pressée parce que ça contient plusieurs tissus. Et quand vous pressez, vous êtes en train d'endommager certains tissus.
D'accord.
Et la deuxième question,
elle dit quel type d'aliments, par exemple, pour prévenir les cancers.
Oui, quand la personne est atteinte déjà, il y a des aliments qu'il faut plus prendre. Parce que dans ces aliments, nous avons des molécules qui... ces aliments libèrent des molécules qui détruisent les cellules cancéreuses. Il y a les aliments tels que le chou, il y a les champignons, il y a les gingembre, il y a les fruits, tous les fruits. Donc, la personne est appelée à ne pas manquer ces aliments-là au moins 2 ou 3 fois par semaine. Mmh. Vraiment, ça aide la personne à détruire les cellules cancéreuses.
D'accord. Georges, on nous appelle de Kindou. Bonjour.
Bonjour, merci. Merci, jeudi.
Quelle est
votre
question?
Alors, ma question était de savoir, j'ai une question par rapport au contraceptif. Tout en sachant que beaucoup de femmes qui ne conçoivent pas souvent, qui font beaucoup de cancers du sein, et beaucoup de femmes qui se prostituent beaucoup, qui font des cancers de col aussi. Est-ce que si une femme utilise... Ouais, il y a aussi des femmes qui accouchent et qui accouchent normalement, qui peuvent avoir ces cancers. Maintenant, ma question était de savoir est-ce que les contraceptifs peuvent aussi influencer les cancers du sein et du col.
D'accord, merci. Docteur Sarr.
Oui, merci. Le contraceptif, c'est un traitement hormonal. Et souvent, on utilise ça très mal parce que deux ou trois femmes peuvent se présenter chez le médecin, chez le gynécologue. Ils peuvent avoir 3 produits différents. Elles ne sont pas appelées à prendre les mêmes produits. Mais vous allez voir chez nous ici, tout le monde prend ses contraceptifs tels qu'ils pensent. Et puis, il y a beaucoup de choses que le médecin va demander à la femme pour savoir est-ce qu'il faut donner ou pas. Donc, il y a des conditions et il y a plusieurs plusieurs méthodes de contraception. On choisit selon la personne. Alors, quand les contraceptifs sont mal utilisés, ça expose quand même la femme à développer certaines maladies dues aux troubles hormonaux. Donc, il y a un risque. Donc, nous conseillons à la femme, avant de prendre la contraception, il faut aller voir un médecin. Vous avez parlé de femmes qui n'ont pas mis au monde, qui sont exposées. C'est réel. Ça, ce sont des facteurs que nous appelons facteurs hormonaux. Mais il est dit que la femme qui n'a pas mis au monde, quand elle a besoin, par exemple, d'avoir des enfants, elle doit avoir un gynécologue. Le gynécologue sait comment balancer les traitements hormonaux pour qu'elle ne puisse pas avoir de problème. Mais une femme qui a déjà un cancer n'a plus le droit de prendre la contraception liée aux hormones. Elle peut peut-être prendre le stérilet, c'est bon. Mais les autres méthodes liées aux hormones, à un traitement hormonal pour éviter la conception, c'est interdit pour la femme qui est atteinte déjà du cancer du sein.
Comment prévenir le cancer du sein du col de l'utérus? Docteur Claude Sa, président de l'ONG Nouvel Espoir contre les cancers, et notre invité ainsi que Célestin Kachunga, coordonnateur de l'ONG ASICAS.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment prévenir le cancer du sein du col de l'utérus? Célestin Kachunga, vous étiez en train de nous parler de l'autopalpation, qui est l'un des moyens importants pour prévenir les cancers. Alors, allez-y.
Oui, je disais, les seconds gestes Maintenant, vous soulevez votre bras et vous commencez à palper vos seins, à faire des petits cercles comme l'aiguille d'une montre. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Vous êtes en train de chercher la boule que nous sommes en train de parler ici, un nodule. Et le troisième geste maintenant, vous allez aussi en dessous des aisselles, parce que des nodules là peuvent apparaître au niveau des aisselles. Et s'il n'y a pas, vous passez au tout dernier geste, vous pincez vos mamelots doucement, vous regardez s'il n'y a pas des écoulements autres que les laits maternels. S'il y en a, vous allez vite voir votre médecin pour le dépistage systématique. En fait, vous devez savoir que ces gestes d'autopalpation, ce n'est pas chaque jour qu'il faut passer ces gestes. Vous devez passer les gestes d'autopalpation semaine après les règles, si vous n'êtes pas ménopausé. Si vous êtes ménopausé...
Une semaine après les règles.
Oui. Okay. Si vous êtes ménopausé, vous choisissez une date fixe le mois. Au même titre que les hommes aussi, parce que les hommes ne voient pas des règles.
D'accord. Alors docteur, on sait que ces gestes-là d'autopalpation donnent toujours des bons résultats.
Bon, les gestes d'autopalpation, en tout cas, ça nous aide à réduire le taux de prévalence du cancer du sein. Le nombre de cancers du sein va diminuer parce que les femmes vont se rendre compte. Par exemple, l'autopalpation, nous sommes en train de rechercher des boules, la présence d'une boule dans le sein. Alors, si les femmes appliquent cela et elles comprennent pourquoi elles sont en train de le faire, elles vont se rendre compte de la présence de la boule peut-être avant que ça puisse se cancériser. Alors là, on pourra soigner la femme et on évitera que la femme puisse développer les cancers du sein dans l'avenir.
Donc, mais on peut dire que toute boule au niveau du sein n'est pas un début de cancer.
Oui, non, j'ai bien dit, la présence d'une boule dans les seins est suspecte. Je n'ai pas dit que c'est un cancer. Il faut que les femmes sachent. Je ne peux pas qu'elles s'alarment déjà. Mais je dis ceci. La boule, c'est au début, c'est comme une bille qui est glissante sous la peau. Et souvent, cette boule-là est mobile. Quand c'est même mobile, c'est bon. Nous, les médecins, nous pensons que c'est bon. Quand ça prend du temps, ça commence à se fixer sur le tissu du sein. C'est déjà un moment très suspect. Quand nous demandons toujours, est-ce que la boule est fixe ou bien la boule est mobile? Quand c'est mobile, on a de l'espoir. On se dit, non, sûrement, c'est pas un cancer. Vous voyez? Alors, si les femmes puissent faire l'autopalpation telle que M. Sestin vient de le dire, je pense qu'on va diminuer le cancer même de plus que la moitié du taux de prévalence. Et ça nous aidera beaucoup.
D'accord.
Et l'autopalpation, c'est un acte qui n'est pas payant. Donc la femme elle-même se prend en charge. Ça va vraiment beaucoup nous aider.
Caleb nous appelle de Goma, au Nord Kivu. Bonjour Caleb. Et
bonjour, je remercie de m'avoir accordé la parole.
On vous écoute.
Donc, chez ma femme, il pousse des petites pousses dans la tête. C'est une boule. Je l'ai pris, donc je l'ai fait pendant que la tête pousse dans la tête.
Oui, parlez un peu plus fort. Votre femme, qu'est-ce qu'elle a fait?
Elle avait poussé des boules dans la tête.
Elle a des boules au niveau
donc, au niveau de la tête, juste proche de l'oreille. Quand elle a conçu, il y a une autre boule qui a poussé au niveau de ses parties intimes quand elle était enceinte. Alors, juste à la naissance, cette boule-là qui est poussée juste à ses parties intimes, ça a disparu. Maintenant, si vous andrez de me demander s'il s'agissait de cancer ou comment, si tu sois andrez de vous voir avec cette boule qui reste juste dans la tête, elle ne disparaît pas.
D'accord. Allô? Oui, d'accord, on a saisi votre question. Docteur Sa, qu'est-ce que vous pouvez dire?
Oui, je pense que pour ce que notre frère est en train de dire, il doit pas rester à la maison. Il doit aller voir un dermatologue et pourra l'aider parce que ce sont des boules qui surviennent sur la peau et le dermatologue peut voir et lui donner une bonne orientation.
Voilà. Je reviens à Célestin. Aujourd'hui, on parle du cancer du col et du sein et du col de l'utérus. Donc, on n'a pas encore parlé du col de l'utérus. On va y aller rapidement. Alors, par rapport à l'autopalpation, il y a d'autres gestes à poser? Salut, monsieur Célestin.
Non, tout d'abord, c'est les gestes d'autopalpation. C'est à partir de soi-même qu'on peut passer les gestes d'autopalpation. À part ça, il n'y a aucun geste.
Alors, dès qu'on constate qu'il y a une boule suspecte, immédiatement, on va consulter.
C'est tout à fait. Tout à fait.
D'accord.
Mais on doit mettre l'accent aussi pour dire, comme docteur Sa vient de dire, toute boule n'est pas synonyme à un cancer.
D'accord. Ah. Il ne faut pas s'alarmer en disant que voilà, c'est un début de cancer. Oui, docteur Sa.
Oui, je dis ceci pour la boule, il ne faut pas s'alarmer, mais il ne faut pas non plus négliger. Parce que souvent, nous avons des femmes qui viennent nous voir pendant que c'est déjà un cancer et nous disent, bon, j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit que, bon, ce n'est pas un problème. Ou bien j'ai vu ma mère qui m'avait dit que ce n'est pas un problème. Parce que cette boule-là, ce n'est pas un cancer dès le départ. En tout cas, plusieurs cas, ce n'est pas un cancer dès le départ. Mais alors, il faut que les gens comprennent que la boule, au départ, n'est pas un cancer. Il y a des gens qui peuvent mourir avec leur boule et la boule ne change pas. Mais la boule, là, chez d'autres personnes, ça devient un cancer après, par après. Donc, c'est une boule qu'il ne faut pas négliger parce que vous ne savez pas chez qui ça va dégénérer en cancer. Comme il est question de se protéger contre le cancer, il ne faut pas garder la boule parce que la boule ne nous sert à rien. Mais la boule, c'est un risque d'un développement du cancer chez la femme.
Et pour le cancer du col de l'utérus, comment prévenir? Prévenir cela?
Oui, on va y arriver, mais il y a aussi un autre élément sur la prévention du cancer du sein. Il y a, à part l'autopalpation, nous avons le dépistage volontaire. C'est-à-dire, la femme doit aller une fois par an à l'hôpital pour voir simplement un médecin. Une femme bien portante, elle doit aller voir un médecin pour dire, je viens pour faire le dépistage du cancer du sein. Il y a un processus, le médecin va l'entendre sur l'interrogatoire, il y a un protocole. Après cela, on va faire des investigations qui consistent par la mammographie ou l'échographie. Et chaque année, la femme doit faire ça. Peut-être la première, la deuxième. Après la deuxième année, elle peut revenir 3 ans après, et puis 5 ans après, et puis quand on trouve qu'elle est quitte, c'est pas un problème. Ce sont les deux moyens pour éviter et dépister très tôt le cancer du sein. L'autopalpation du sein et le dépistage volontaire une fois par an chez le médecin.
Et la prévention du cancer du col de l'utérus,
comment le faire? Et pour le cancer du col de l'utérus, la femme doit savoir que le cancer du col de l'utérus, quand on se rend compte qu'on est malade, c'est peut-être 15, 20 ans après que la maladie avait déjà commencé. Ce que la femme doit faire pour éviter le cancer de l'utérus, actuellement, on le fait même dans le sang. Il y a la sérologie pour voir si il y a les anticorps contre il y a un virus qui est à l'origine de cela. Et on peut faire cette sérologie chez nous. Je ne sais pas si on a déjà cela. Mais ce que nous conseillons, c'est d'aller voir un médecin. Il y a le frottis vaginal, le frottis cervical qu'on fait. Et avec le frottis, on va voir si vous avez des lésions précancéreuses ou pas. Parce que quand on a des lésions précancéreuses, on peut bien soigner la personne. Et on peut même faire l'ablation du col. Et si on trouve qu'on peut faire même l'ablation de tout l'utérus, s'il a déjà eu des enfants, c'est bien. Et la personne est sauvée. Donc nous faisons le dépistage volontaire du cancer de l'utérus par le frottis cervical qu'on va envoyer au laboratoire. Donc une femme peut aller voir le médecin, il peut le faire une fois par an, et quand on trouve qu'il n'y a pas de problème, on lui rappellera l'année suivante, et après cette année, on peut la rappeler encore 3 ans après et 5 ans après. Donc elle doit le faire régulièrement pour qu'on puisse voir s'il y a un problème ou pas. Parce que très souvent, nous contactons ces virus-là au début des activités sexuelles, au début des années des activités. Quand la fille est encore adolescente, c'est à ce moment-là très souvent qu'on rencontre ces virus-là qui est responsable du cancer du col.
Jean nous appelle des Kikuit. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marie. Bonjour, c'est notre invité.
On vous écoute, Jean.
Oui, j'ai 3 préoccupations que je vais demander parce que le sujet est très, très gourmand et important. Je voulais, ma première préoccupation, je voulais demander à notre invité. Il a parlé de auto-palpation. Cette auto-palpation-là, on va faire quand quelqu'un pense déjà qu'il a les signes de cancer. Ma deuxième préoccupation, quel conseil ou notre invité pourrait donner à cet homme-là qui utilise leur soutien comme poche pour garder de l'argent? Ça, c'est un conseil que nous avons fait là où je vais à la pharmacie. Il y a quelqu'un qui vient me dire, quand vous le demandez de donner l'argent que je vous ai produit, il s'est introduit qui fait profit de l'argent. Cela n'est pas quand même quelque chose qui peut causer des cancers. La troisième préoccupation, je voulais aussi demander à notre invité. Il y a combien de sortes de cancers? Merci beaucoup.
Bien, Célestin Kachunga, l'autopalpation, on l'a fait à quel moment? Quand on a déjà la maladie ou bien ça se fait avant? c'est la question qu'il veut savoir, qu'il pose.
Bon, au fait, les dépistages, quand on parle de dépistage, on sous-entend que la personne n'est pas malade. Donc, les gestes d'autopalpation font partie des dépistages. Donc là, on sous-entend que vous n'êtes pas malade. Et donc, vous êtes en train de chercher. Bon, on doit d'abord signaler une chose. Et avant qu'on parle des cancers, ça commence d'abord par ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et pour que ça quitte aux lésions précancéreuses à un cancer confirmé, ça vous faut même 10 ans. Donc ici, nous sommes en train de parler de dépistage. Donc une femme qui va se dépister pour voir peut-être des lésions précancéreuses.
D'accord. C'est la deuxième question. Les femmes, certaines femmes ont l'habitude de garder l'argent dans le soutien. Les vendeuses de Makala et autres, elles préfèrent garder l'argent. Est-ce que ça peut les prédisposer à développer un cancer?
Je peux dire bien sûr parce que, vous savez, l'argent, c'est un instrument qui a des matières un peu toxiques. À partir de ces produits-là, ça peut-être créer des lésions qui peuvent, dans les jours à venir, les créer des problèmes. Mais je ne dis pas automatiquement, ça peut les créer. Parce que, comme vous le savez, les cancers du sein, il n'y a pas une cause exacte. Si je fais ça, j'ai le cancer du sein, non.
Oui. Docteur, est-ce que par rapport à l'argent, vous gardez certains moments qui gardent l'argent au niveau du soutien, dans leur soutien?
Oui, voilà. Nous ne souhaitons pas que les femmes gardent l'argent au niveau du soutien parce que l'argent... La fabrication de l'argent a quand même fait intervenir beaucoup de produits chimiques. Alors jusque-là, nous disons le cancer du sein, la cause n'est pas encore connue. Donc on ne sait pas si dans l'avenir on nous dira quoi par rapport aux produits qu'on utilise pour l'argent. Donc comme nous ne connaissons pas, nous ne souhaitons pas qu'ils mettent l'argent dans le soutien.
Huguette Kapinga nous appelle de Kananga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Huguette.
Oui, merci, j'ai des préoccupations.
Oui.
Parmi le facteur lié au cancer, le facteur hormonal, si j'aimerais savoir si l'absence d'allaitement fait nécessiter le risque.
Pardon?
J'aimerais savoir si l'absence d'allaitement.
Si l'absence d'allaitement peut prédisposer une femme à développer le cancer. Oui.
Deuxième question, j'aimerais savoir si le premier parité haïtien.
Primipare âgé,
peut développer un cancer.
Primipare âgé. D'accord. Docteur, ça.
Oui, merci, Madame Kapinga. Nous disons la primipare âgée, parmi les facteurs que nous appelons facteurs hormonaux, nous parlons de la primigeste âgée, c'est-à-dire la femme âgée qui n'a pas encore eu d'enfant. Donc peut-être elle a déjà 45 ans, elle a déjà plus de 40, elle n'a pas encore eu d'enfant. Ce sont des femmes exposées. Et la femme qui n'a pas allaité non plus, c'est une femme aussi exposée. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans les recherches avancées, on parle même qu'on dit l'allaitement et l'accouchement constituent un vaccin contre le cancer du sein. Donc, pendant l'allaitement, il y a des remaniements qui se passent au niveau du sein qui aident la femme à diminuer le risque de développer le cancer du sein. Et l'accouchement, pendant que la femme est enceinte, il y a une diminution du taux de l'œstrogène dans son organisme. Donc, ça diminue encore le risque de la femme à développer le cancer du sein. Voilà un peu, nous appelons cela vaccin contre le cancer du sein.
Bien, je reviens à Célestin Kachunga. On parle du cancer du sein, de la prévention du cancer du sein aujourd'hui. Mais nous savons que dans d'autres pays, par exemple, il y a déjà des programmes nationaux de lutte contre le cancer. Ça marche très bien. Et on informe les femmes à temps pour aller faire les dépistages. On a des appareils pour la mammographie et les autres examens. Pourquoi ici, dans notre pays, on a l'impression que jusque-là, on n'a pas une politique? Où en est-on aujourd'hui?
Bon, moi, ce que je peux dire, état qui est inondé. En fait, nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. On a bousculé le gouvernement à un certain moment. Et nous sommes mis ensemble avec l'appui de l'OMS, que j'ai salué en passant. Nous sommes mis ensemble pour élaborer un draft d'une politique nationale de lutte contre le cancer. C'est depuis 2003, mars 2003. Et jusque-là, ça souffre de sa promulgation par l'autorité des tutelles. On n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour entrer pour un peu demander au gouvernement de mettre sur pied une politique nationale au même titre que d'autres maladies peut-être pas plus importantes que le cancer. Je peux peut-être vous dire par rapport aux statistiques au niveau mondial, malgré que nous n'avons pas des statistiques appropriées, mais au niveau mondial on va vous dire que le cancer tue chaque année une affaire de 8 millions d'individus. Et si vous mettez toutes les trois maladies ensemble, VIH, SIDA, tuberculose, malaria, ça n'arrive pas même à 8 millions. Mais pourquoi pas ne pas s'impliquer dans cette pathologie gynécologie qui décime pas mal de nos frères.
Donc il y a déjà un travail qui a été fait, il y a des propositions, il ne reste que la promulgation de ce plan,
Il y a déjà un draft sur la politique nationale de lutte contre les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus, que nous deux, l'ONG Nouvel Espoir et ASICA, ça a beaucoup contribué aussi, et d'autres experts, mais jusque là on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce n'est pas promulgué.
Voilà, on n'arrive pas à comprendre, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de faire parler le ministère de la Santé par rapport à ça. Nous avons en ligne Faustin de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, notre invité, bonjour.
Quelle est votre question, Faustin?
J'ai deux questions à poser à notre invité. La première, l'invité a parlé d'une étude là qui a été menée et on a trouvé, le sein de femmes, on a trouvé le fumée là, le fumée de véhicules, et puis on a trouvé des sortes de carburants là. Bon, là, l'invité n'a pas pu développer si cette résidu ou bien cette matière-là est à l'origine des cancers, peut-être à l'origine des cancers qu'on trouve chez les femmes. Deuxième question, il y a une étude aussi qui a été menée, on a pu constater que chez les femmes musulmanes, ils ont plus de cancers de col que des femmes chrétiennes. Cela est dit peut-être à la circoncision que les chrétiens mènent.
À l'excision.
Tandis que chez les musulmans, on ne fait pas cette circoncision. Et c'est ça qui a fait qu'on trouve plus les femmes musulmanes avec des cancers de col. Et je vous remercie.
Voilà, merci. Docteur Sarah, qu'est-ce que vous pouvez dire, Faustin?
Oui, par rapport à la fumée des véhicules, je crois avoir bien expliqué, j'ai dit ceci. Ce sont les déchets des huiles de moteur et des carburants. C'est-à-dire, ce sont des déchets industriels, des déchets chimiques. Et ces déchets-là, par la fumée, la femme aspire. Et dans les recherches avancées dans des pays occidentaux, on a retrouvé les déchets de ces matières-là dans les canaux mammaires des femmes. Et dans les recherches, toujours, on a retrouvé qu'il y avait une relation entre la présence de ces déchets et une augmentation du taux de l'estrogène dans l'organisme de la femme. Et c'est ce qui justifie le risque élevé de développement du cancer du sein chez la femme. Donc, de la fumée des véhicules au cancer du sein, voilà ce que je peux te donner comme explication.
Alors, il est revenu sur les femmes musulmanes. D'après lui, les femmes musulmanes développent beaucoup plus les cancers du col de l'utérus. Mm-hmm. Et les hommes, il a parlé aussi des hommes, à cause de la circoncision, ils n'ont pas ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça?
Mais je pense qu'il a parlé de l'excision chez la femme musulmane, voilà. Pas chez la femme chrétienne. Je crois que l'excision s'est fait au niveau du clitoris. Et le cancer du col de l'utérus, c'est un peu plus haut. Bon, si on fait les statistiques et on retrouve cela, je ne sais rien dire parce que moi, dans les documents que j'ai, je retrouve que le cancer du col de l'utérus est plus causé par la présence du papillomavirus. Alors, le papillomavirus.
C'est pas l'excision qui peut être à l'origine de ça.
Je ne pense pas à l'excision parce que le papillomavirus est une maladie sexuellement transmissible. Donc, on peut avoir l'excision, on peut ne pas l'avoir. Les virus, quand elle est là, même le préservatif a du mal à protéger la personne contre ces virus-là.
D'accord. C'est les 5 actions pour terminer par rapport à ce mois de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs?
Oui, en fait, c'est peut-être de bien suivre nos relais communautaires qu'on a largués sur le terrain, dans le cadre de les sensibiliser, de les informer par rapport à la prévention des cancers du sein, et de mettre en application les gestes qu'on les apprenne, les gestes de l'autopalpation. Et à part ça, peut-être pour chuter, je peux dire toujours parmi les activités que nous sommes en train d'organiser une soirée de gala à l'hôtel Sultani. C'est une soirée de sensibilisation, de plaidoyer et de solidarité avec les malades des cancers du sein dans notre pays. Et donc là, on va appeler les décideurs de notre pays, et les ambassadeurs accrédités en RDC, les ONG, pour les parler de cette problématique. Et pour que peut-être nous demandons peut-être que nous ayons une stratégie au même titre que d'autres maladies.
D'accord, un numéro par lequel on peut vous joindre rapidement, si peut-être il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus après l'émission.
Oui, pour les numéros de la CICAS, l'ONG CICAS, c'est le 09 91 36 51 74. Je répète, 09 91 36 51 74.
D'accord. Docteur Ansa est président de l'ONG Nouvel Espoir contre le cancer. Un numéro par lequel on peut joindre votre organisation.
Nouvel Espoir, 081 40 70 896.
Bien, merci à nos invités, Dr Klunsa et merci Célestin Kachunga. À la prochaine.
Merci beaucoup.